Good Morning Business. Culture IA.
Il y a une époque, Anthony Morel, Sorare, c'était quand même la pépite française qui fait des images virtuelles. Ils reviennent, ils tentent un comeback après une période compliquée.
Ouais, c'est ça. Il y a 5 ans, il faut se souvenir de ce que c'était. Sorare, c'était l'une des licornes françaises les mieux valorisées. Plus de 4 milliards d'euros. Ils avaient fait une levée de fonds à 680 millions des investisseurs comme Kylian Mbappé, par exemple. Donc, c'était vraiment la pépite absolue de la French Tech. Après, ça a été un petit peu plus compliqué. Ils sont partis d'une intuition qui était très bonne, qui est celle de la dématérialisation des cartes de foot à collectionner. Énorme marché, évidemment. Et donc, ils se sont dit, on va créer une plateforme de cartes de foot virtuelles. Et c'est ça le principe de Sorare. Ce sont en fait des cartes de foot qu'on va s'échanger. Donc, on ouvre des paquets de cartes de foot virtuelles. On les possède, mais on les possède sous forme de NFT. Donc, les NFT, je rappelle, ce sont ces titres de propriété virtuelle dans la blockchain qui permettent ensuite eh bien, de les échanger, de les revendre. Et alors, il y a tout un marché qui s'est lancé, un marché secondaire où on pouvait acheter certaines cartes, mais plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est devenu un truc de fou. Ensuite, il y avait un système de jeu de fantasy football, c'est-à-dire qu'on pouvait composer une équipe, la voir évoluer, gagner des lots. Enfin, ils avaient pensé tout un système autour de ça. Et puis ensuite, ils se sont pris en pleine figure, eh bien, le crash des NFT précisément. C'est-à-dire qu'en gros, ces titres de spéculation, mais oui, il y a eu une spéculation folle autour des NFT et le nombre de transactions a fondu de l'ordre de 90% entre 2021 et 2024 sur l'ensemble du marché des NFT. Évidemment, ça a eu un impact sur Sorare. Plan de sauvegarde de l'emploi l'an dernier, fermeture de leur bureau de New York. Mais là, la Coupe du Monde, eh bien, c'est le moment de revenir. Ils ont lancé une grande campagne de pub, un nouveau jeu qui s'appelle Sorare Colors. Ils insistent beaucoup moins sur le côté NFT, blockchain, crypto. On voit que ça fait un peu peur aux gens. Donc, c'est plus maintenant jeu de cartes à collectionner, un peu comme les cartes Pokémon d'une certaine manière, même si techniquement, on reste dans l'univers des NFT et de la blockchain.
Mais les cartes dématérialisées, ça cartonne, c'est
oui,
toujours.
Absolument, mais c'est un marché énorme. En fait, ça se base sur le fait qu'il y a de plus en plus de porosité entre les cartes virtuelles, qui sont un marché absolument considérable, et les cartes en mode, en mode réel. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des phénomènes sur les réseaux sociaux comme le card break. Le card break, c'est des gens qui se filment en train d'ouvrir des paquets de cartes. Et ces vidéos-là, elles font des millions de vues.
C'est comme ceux qui rendent des courses, quoi. Ben,
c'est exactement ça. On voit des gens ouvrir des cartes rares et je sais pas, on s'identifie. Moi, je regarde ça.
Vous regardez ça, ouais.
C'est ça, c'est un de mes petits péchés mignons, mais je regarde ça pendant des heures. Des gens qui ouvrent des paquets de cartes, ça paraît complètement fou. Mais il y a un côté assez hypnotisant. Ben oui, et c'est comme ça, figurez-vous. Et quand je dis mélange avec des cartes virtuelles, c'est par exemple Panini. Panini, ils ont leur célèbre album avec les autocollants, mais ils ont aussi lancé la version application mobile où vous pouvez, en fait, collectionner des cartes de foot virtuelles. Vous ouvrez des paquets de cartes virtuelles, vous pouvez les échanger avec des gens du monde entier et puis vous pouvez les coller dans un album virtuel. Donc il y a vraiment cette porosité de plus en plus grande finalement entre le monde virtuel et le monde réel.
Avec les cartes qui sont des véhicules d'investissement comme les montres ou les baskets, quoi.
Exactement, on peut d'ailleurs les faire certifier, hein. Il y a des systèmes de certification de la valeur de sa carte, de la qualité de sa carte. Il y a des cartes qui s'échangent pour plusieurs millions d'euros et puis les fabricants de cartes ont bien compris qu'il fallait organiser la rareté. Je vous donne un exemple, si vous regardez les matchs de la Coupe du Monde en ce moment, vous aurez peut-être remarqué que sur la manche droite du maillot des joueurs, vous avez un petit patch qui est assez discret. Alors, il y a des patchs différents. Vous avez par exemple un patch soulier d'or sur le maillot d'Mbappé parce qu'il a été meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde. Vous avez un patch Legacy pour, par exemple, Cristiano Ronaldo parce qu'il a participé à plus de 5 Coupes du Monde. Et en fait, ces petits patchs, à la fin des matchs, ils sont découpés, ils vont être intégrés dans des cartes à collectionner pour les prochaines Coupes du Monde. Et ces cartes-là, elles vaudront très très cher. C'est un truc qui existe déjà, par exemple, pour les cartes de la NBA, donc pour le basket américain. Et par exemple, il y a une carte de LeBron James qui s'est vendue cette semaine avec un bout de son maillot. Elle s'est vendue plus de 2 millions d'euros. Donc, c'est pour vous donner une idée.
Mais un bout de son maillot que vous n'avez même pas dans les mains, quoi.
Ah, bah, vous l'avez sur la carte, en fait. Il est intégré à la carte. Mais vous possédez un morceau de maillot qui a été porté pendant un match de foot ou un match de basket. Et ça, pour les fans, évidemment, ça a une rareté, une valeur. Et ça en fait un véhicule d'investissement quasiment comme un autre.
Merci beaucoup, Anthony Morel.